Faudrait que je dise à Fletch aussi qu'il fasse le ménage sur StreamYard, parce que il n'y a que des vidéos de Geek Powa sur StreamYard. Ça, on est limité en heure, en fait. Ok. Alors, je vais juste mettre ça. On a fait les choses bien, hein.
Ah ouais.
Alors. Alors, attention. Je vais mettre une musique. Comme ça, j'ai tout, tu vois. Je suis un peu tranquille. Alors, petite musique d'ambiance. Je te laisse 10 secondes, hein, pas plus. Hein. Ah, je vais faire autrement, excuse-moi. Et bonjour, bienvenue dans ce... Hop, je recommence. Et bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast. Nous sommes de retour dans l'émission Process, l'émission qui parle et qui essaie de décrypter un jeu de rôle bien évidemment, hein, de sa conception dans les cerveaux embrumés de son créateur ou sa créatrice, ben jusqu'à la finalisation, alors que ça passe par un financement participatif ou pas, jusqu'à sa finalisation et son arrivée, ben, soit sous forme physique, soit sous forme PDF, en tout cas une arrivée définitive de l'idée à la forme physique chez les gens qui ont souscrit à une offre, quelle qu'elle soit. Donc, Process, vous aviez déjà vu la série Omega chez Odonata, et cette fois-ci, on va entamer un nouveau cycle avec un jeu de rôle dont on va reparler bien évidemment, bien en détail, qui s'appelle Majestic 12, et on va commencer cette première édition, et on va commencer cette première émission avec son auteur. Voilà, merde, j'arrive plus. On va commencer avec cette première émission sur le thème du concept et de la création du jeu lui-même. Et bien évidemment, on ne va pas faire ça tout seul, on va faire ça avec l'auteur lui-même que je vais venir tout de suite.
Salut.
Ben, salut, bonsoir Cédric, ben, ravi de t'avoir dans cette émission, dans cette première hein, qui entame un tout nouveau cycle pour l'émission Process. Donc bon, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par la question la plus basique et classique que nous connaissons tous, qui est la présentation, pour savoir un petit peu qui tu es dans un premier temps et dans un deuxième temps savoir comment tu en es venu au jeu de rôle et bien sûr à la matérialisation de tes propres jeux. Voilà, si tu peux commencer.
Du coup, moi je m'appelle Cédric, j'ai 45 ans. Dans la vraie vie, je fais de la conception mécanique, donc quelque chose qui a rien à voir avec le jeu de rôle. Mmh. Et du coup, j'habite pour l'instant en Isère, pas pour longtemps, parce que bientôt on va être vendéen.
Et oui, on a vu ça.
C'est ça. Et puis ben voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus sur moi.
C'est déjà pas mal. Mais du coup, on va embrayer sur la partie jeu de rôle lui-même, puisque je sais que ça fait déjà un petit moment hein, que tu pratiques cette activité. Déjà voir un petit peu comment t'es tombé dedans. Et puis, justement, puisque bon, tu es l'auteur de Majestic 12, hein, on va en parler en long, large et travers pendant de quelques émissions, mais de voir comment t'en es venu à l'écriture, justement.
Ok. Alors, ma première session de jeu de rôle, ça a été sur du ADD 2.5. Une soirée, pas plus. On était deux joueurs à MJ. C'était pour dépanner, on va dire, la soirée. Et puis j'étais curieux, donc j'ai fait ma partie. Ça m'a pas spécialement déplu. J'ai aimé, mais j'ai pas pu en faire plus parce que je jouais en région parisienne. Mmh. Et du coup, moi, habitant du côté de Grenoble, c'est pas des gens que je pouvais voir régulièrement.
Oui, c'est sûr.
Et sur Grenoble, j'avais aucune connaissance. Dans le jeu de rôle, même si j'aimais bien tout ce qui était univers fantasy, je faisais beaucoup de peinture Warhammer. Mmh. Je lisais de la fantasy. mais j'avais pas de personne avec qui partager ses hobbies.
D'accord.
Donc, comment je suis venu plus concrètement sur le jeu de rôle? Ben, c'est par Warhammer aussi. Donc, j'ai cherché, quand Internet commençait à être un peu populaire, entre guillemets,
Ouais,
avec le
les années
forfait
90, ouais.
Wanadoo, Center, etc. J'ai trouvé des gens pour jouer à des parties de Warhammer, des parties de figurines. Donc, on a joué et tout. Avec le club de jeux de société de ma ville de Voiron, on a monté une asso. Donc, une asso au départ de figurines, qui par la suite s'est transformée en asso de jeux de société,
Mais de jeu, ouais.
figurines, jeux de cartes avec du L5R principalement, toi, des trucs comme ça. Et puis, à un moment, le jeu de rôle est arrivé avec le donjon de Nalbuk. Et du coup, j'ai
Ah
vu
oui.
qu'il y avait des joueurs qui pouvaient être intéressés. Et comme c'est quelque chose qui me plaisait et que j'avais les bouquins de Warhammer V2 qui me faisaient de l'œil, donc du coup, ayant les joueurs, j'ai acheté les bouquins et j'ai commencé à masteriser sur Warhammer, ce qui était facile pour moi parce que je connaissais très bien l'univers. Donc
OK.
c'était... Et dès le début, j'ai créé mes propres scénarios.
D'accord, je t'ai mis à l'écriture, ouais, c'est des choses qu'on fait un petit peu tout, j'ai l'impression, quand on maîtrise du jeu, en tout cas, c'est vrai qu'on a tendance à écrire très rapidement ses propres scénarios.
Je trouve qu'au départ, c'est beaucoup plus facile parce que vu que tu écris tes scénarios, tu les retiens et tu n'as pas à apprendre un scénario du commerce, il faut que tu l'apprennes, tu le lises, tu le relises, etc. Donc, c'est beaucoup plus accessible, je trouve, de passer par la création. Donc, voilà. Et puis, du coup, de Warhammer, après, donc j'ai eu mon petit groupe de joueurs. Je jouais en asso, je jouais à la maison, on faisait peut-être 4 à 5 parties par semaine.
Ah mon
C'était
Dieu.
très intense.
Ah oui, ça oui, effectivement.
Et voilà. Donc, du coup, après, donc, de Warhammer, je suis passé à l'Appel de Cthulhu, où j'ai eu, on va dire, une dizaine d'années sur Cthulhu, sur la V6, où on en faisait énormément. Et puis, l'écriture, elle était principalement là pour tout ce qui est scénario. Donc, du
Les règles de
scénario aux
jeu et tout.
campagnes, voilà, c'est ça. Mais pas plus loin. Voilà. Et c'est juste avant le confinement, il y avait une série que j'avais adorée, qui n'a rien à voir avec le thème de Majestic 12, mais qui est The Americans. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire un jeu de rôle sur ce thème-là. Parce que j'avais été débridé par un autre jeu que j'aime pas mal et que je critique pas mal aussi. C'est 1%, parce que c'est un jeu qui est basé sur la série. J'ai bouffé le nom.
Ouais, c'est pas Sons of
Son
Anarchy
of
ou...
Anarchy, voilà. Si, si, Son of Anarchy. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas penser à The Americans et puis faire quelque chose dans cette idée-là. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur ce sujet. Et après, au niveau des règles, il n'y avait pas, on va dire, un système qui me plaisait entièrement. Donc, j'ai pioché dans ce que j'aimais bien et ce qui me paraissait être potentiellement intéressant pour de l'enquête. Donc, au départ, je suis parti du principe, qu'est-ce que tu n'aimes pas, par exemple, dans l'Appel de Cthulhu, des choses comme ça, qu'est-ce que tu n'aimes pas quand tu fais ce genre de scénario? Et c'est surtout comme ça que j'ai mis en place des règles que je trouvais intéressantes à mon niveau. Voilà.
D'accord. Ah, ok, donc tu es parti vraiment au niveau des règles. Tu as fait un mix de plusieurs systèmes que tu connaissais en adaptant à tes souhaits, c'est ça à peu près?
C'est ça, j'ai pris des choses que j'aimais bien. Alors des fois, il y a des choses, tu peux les chercher, tu vas quasiment pas les trouver, hein. Mais par exemple, qu'est-ce que j'ai pris? Tenga, Capharnaüm, du vampire, par exemple. Voilà. C'est principalement, on va dire, les sources que j'ai qui m'ont intéressé sur le jeu. Si, il y a Savage World au départ. Parce qu'au départ, il y avait deux types de dés. Et dès que j'ai commencé les playtests, j'ai vu que c'était pourri. Et du coup, j'ai simplifié. Donc voilà.
Donc, t'es parti donc cette base de créer déjà ton propre jeu sur un univers que tu aimais bien, donc The Americans. Et donc, ça, c'était quoi? 2018, 2019 à peu près, c'est ça?
Ouais, 2019, par là, ouais.
D'accord.
C'est ça.
Et Majestic 12, c'est arrivé comment alors?
C'est arrivé un peu plus tard parce que en ayant donc j'avais déjà très bien avancé les règles, quasiment fini les règles, avant les playtests, par contre. Et du coup, j'écrivais sur donc sur le scénar, sur le scén on va dire le jeu d'espionnage. Et puis par rapport aux règles, je me suis dit, mais putain, il y a des setups qui pourraient être super intéressants aussi. Donc c'est comme ça qu'est venu ben, le setting de Majestic 12, plus deux autres settings. Et en gros, je me suis dit, ben voilà, quoi, j'ai des plannings pour faire d'autres choses après. Voilà. Et en réfléchissant sur le concept, je me suis dit, le jeu d'espionnage, c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est pas quelque chose qui va amener, on va dire, une petite pierre à l'édifice. Je pensais pas que les gens, ça allait plus les marquer plus que ça. Parce que même si je pensais pas à l'édition, etc., mais à l'époque, ben, via Discord, tu rencontrais des gens qui créaient aussi leur propre jeu ou ce genre de choses comme ça.
Et ça fait de
J'ai
l'émulation.
connu, c'est ça. Après, j'ai vu que tu pouvais faire des choses avec Itch.io et le partager. Donc, du coup, c'était plus ça au début, mon idée. Ça allait pas plus loin que ça au début.
D'accord.
Et au niveau des settings, je me suis dit que Majestic 12 apportait quelque chose de différent. Même si le setting de, on va dire, jeu d'enquête sur le thème des ovnis, c'est des choses qui ont déjà existé. Mais après, je sais que dans le jeu de rôle, tu réinventes jamais quelque chose. T'as pas l'idée, on va dire, du siècle qui va dire, ben, ça existe jamais, ça a jamais été créé. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, ben, tiens, ça existe déjà. Il y a ça qui fait la même chose que toi, ou on va dire,
Qui se rapproche, ouais.
qui s'en rapproche énormément. Et voilà. Et je me suis dit qu'avec Majestic 12, l'attrait vraiment que j'avais avec ce setting, parce que du coup, Majestic 12, c'est les hommes en noir, les men in black.
Ouais, tout à fait.
Mais du coup, j'avais pris, on va dire, la vision de la légende urbaine conspirationniste, ce que j'aime dire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme le film Men in Black. C'est pas comme, on va dire, l'homme à la cigarette dans, même si ça s'y approche un peu. Mais tu vois, toutes ces légendes-là, c'est vraiment, bah, quand tu regardes un épisode d'Alien Theory,
Oh là là, oui, c'est bon.
voilà, et que tu regardes des dossiers par rapport à Majestic 12, c'est vraiment, oui, le côté conspirationniste. Donc, c'est pas, par exemple, les joueurs de Delta Green qui connaissent Majestic 12, c'est pas la même agence.
Oui,
Voilà.
on est sur deux choses différentes.
C'est ça.
Donc pour résumer, donc t'es parti d'abord de la création d'un système parce que tu voulais jouer de l'espionnage, et ensuite après tu as collé dessus un univers qui t'est propre, dans le genre
C'est
donc
ça.
années 60, conspiration, OVNI,
Ouais,
ce genre
alors
de
plus
choses.
varié au niveau années, 1950 à 1986. J'ai
D'accord.
voulu faire quelque chose de très vaste, parce que ce soit ces 4 décennies, elles sont très intéressantes. Au niveau, déjà simplement, c'est une période de guerre froide. Donc,
Oui.
il y a énormément de choses qui se passent pendant ces 4 décennies. Mais j'ai pas voulu aller plus loin que 1986. Pour éviter que les joueurs puissent avoir accès à Internet.
Oui,
C'est
effectivement.
bête, mais
Bah, tu peux avoir de l'ARPANET, mais ce sera vraiment très limité hein, pour le coup. Hein.
voilà.
Et cet univers, justement, donc il t'est venu rapidement? Comment ça s'est. Quelles ont été tes inspirations pour amener à la création justement de Majestic 12?
Généralement, j'y réfléchis pas trop et c'est des déclics qui arrivent. Donc, ça va être par exemple, c'est souvent comme ça, c'est une nuit d'insomnie. Ou alors les 15 minutes sous la douche, et puis là tu penses à un truc et tu fais voilà. Et c'est comme ça que le setting de Majestic 12 est arrivé. Alors, bien sûr, à côté, ben, comme je t'ai dit, hein, je regardais quand même certaines émissions,
Les séries, ouais.
j'aime beaucoup regarder que ce soit des vidéos YouTube, sur que ce soit la création d'univers, que ce soit sur la mécanique quantique, que ce soit, etc. Mmh. Donc c'est des thèmes quand même qui sont récurrents et on va dire qui m'intéressent depuis facilement l'adolescence.
L'univers élégant de Brian Greene, par exemple.
Par exemple. Donc du coup, voilà quoi, c'était aussi logique que je m'y intéresse. Voilà. Et après, c'est vrai que Majestic 12 c'est imposé par rapport à d'autres agences, parce que ça aurait pu être, par exemple, la commission Blue Book, qui est une agence, on va dire, dans le jeu, je la présente un peu comme la Nemesis de Majestic 12. Donc, toi, il y aurait pu avoir des angles différents, mais prendre l'angle de la commission Blue Book, je le trouvais moins intéressant et il apportait rien de nouveau par rapport à Majestic 12. Parce que Majestic 12, le but, quand même, c'est vraiment de cacher la vérité. Et c'est là tout l'attrait du jeu.
Ouais, c'est un peu comme les séries comme Fringe, par exemple, ou OVNI, dernièrement, sur Canal.
Alors, oui, OVNI, c'est pas le... Je l'ai regardé, je l'ai adoré.
C'est tout récent, hein. Ouais.
Mais c'est le GEPAN. Donc, le GEPAN, c'est... ils enquêtent, mais ils cachent pas la vérité, tu vois.
Non.
Il n'y a pas ce côté-là. Fringe, je l'ai connu pendant que j'écrivais Majestic 12. Parce que... en discutant avec des gens, on m'a dit « Ah, mais Fringe, tu devrais regarder, tu vas adorer. » Et puis du coup, j'ai regardé la série. Et oui, c'est une très belle série. Très intéressante.
C'est un X-Files modernisé, on va dire.
Si on c'est veut. Ça.
Pour résumer, ça. Vraiment, voilà. En quatre mots, quoi. c'est plus complexe et plus riche que ça, bien évidemment.
C'est ça. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont inspiré, parce que ça peut être aussi des YouTubeurs. Que j'ai regardé. Alors des fois il y a des youtubeurs que tu apprécies spécialement, mais tu tombes sur le thème et du coup tu as des choses qui vont rester dans la tête et que tu vas pouvoir réutiliser. Voilà quoi.
Ah, du coup tu as regardé des vidéos de conspirationnistes et des choses comme ça.
J'avais des sites des années 90, c'est fond noir écrit en vert fluo.
GeoCities et tout ce qui va avec, ouais.
Voilà, avec des histoires, mais tu te dis, mais comment les gens peuvent y croire? Donc, mais après, c'était super intéressant pour le setting du jeu, quoi.
Et il y a un petit côté aussi rencontre du troisième type ou pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est un genre de film qui permet justement de. Les histoires d'OVNI, quoi. Bon, là, par contre, on cache pas. Enfin, au début, on cache, mais pas trop, quoi.
Ouais, non, rencontre du troisième type, tu. Pas dans l'histoire ou on va dire dans le background du jeu. Je ne l'ai pas utilisé. Par contre, sur un ou deux scénarios, les gens peuvent y penser. Ouais.
Et donc, cette partie écriture, elle s'est déroulée à peu près de quand à quand, à peu près en termes de durée?
On va dire 2021 par là. Je l'ai fait en deux temps, à vrai dire.
D'accord.
C'est-à-dire que j'avais mes règles qui étaient déjà faites. Et du coup, j'ai commencé à mettre, on va dire, l'organisation Majestic 12, l'histoire. J'ai bossé au début sur le kit de découverte. Le background du jeu, j'avais, on va dire, ma ligne directrice.
On en profite.
Mais je ne l'ai pas développé. Plus que ça, je l'ai développé après. J'ai fait un peu une déformation professionnelle, c'est-à-dire que dès le début de mon jeu, j'ai travaillé comme si j'étais en gestion de projet.
Oui.
Donc du coup, j'ai vraiment tout découpé. Jusqu'à 2024, je l'avais fait. Hein. Donc, avec des délais qui ont été à peu près respectés par rapport à ce que j'imaginais. Mais du coup, dès le départ, j'ai commencé là-dessus parce que je me suis dit, quitte à faire, pas quelque chose de professionnel, parce que c'était pas le but et je me voyais pas comme professionnel, mais dès que j'ai voulu avoir des illustrations, donc c'est-à-dire mettre un peu d'argent dans le jeu, je me suis dit, je vais sortir quelque chose sur Itch.io. Voilà, l'idée de base, c'était ça.
Oui, pour que le jeu ensuite en PDF... tu puisses avoir un petit retour d'argent quand même pour rembourser à minima les illustrateurs, je pense, c'est ça.
C'est même pas les illustrateurs parce que ce que j'ai fait, c'est que au départ, je suis personne. Ça fait rigoler ma femme quand je dis ça. Mais dans le jeu de rôle, je suis personne et je pense, je suis toujours un peu personne. C'est-à-dire que j'ai rien fait avant et les gens ne me connaissent pas et c'est normal, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour intéresser les gens à mon jeu? Donc c'est pas faire un bouquin. Et puis le sortir et dire, ah voilà, c'est un super jeu d'enquête sur les ovnis, mais donnez-moi de l'argent sur Ichiwo, vous allez vous amuser, etc. Ça aurait jamais marché, quoi. Et c'est normal que ça ne marcherait pas. Donc je suis parti du principe, je vais faire un kit de découverte pour que les gens puissent voir le jeu, si ça les intéresse ou pas. Et après, par la suite, je me suis dit, je vais. Parce que pareil, je voyais des gens faire ça. Au tout départ, je me suis dit, je vais faire un bouquin et je vais le mettre sur Lulu. Tu vois? Alors, ce n'est pas de l'auto-édition à proprement parler. Quoi, moi, je ne prends pas ça comme de l'auto-édition à proprement parler.
Ça en est, hein, quelque part, hein, de toute façon. Hein. Enfin, je pense que les autres auteurs indés te diraient la même chose. Hein.
Mais l'idée de base, elle était simplement ça. Il n'y avait aucune autre prétention que ça.
Voilà, je le montre, hein, tu as eu la gentillesse de nous envoyer. Donc, c'était disponible, j'en parle au passé, puisque voilà, on va parler de l'histoire éditoriale du jeu, bien évidemment. En tout cas, c'est effectivement, comme tu dis, le petit kit de découverte avec les règles, un scénario, l'agence qui est présentée, tout ce qui va bien. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus en
C'est
détail.
ça. Donc du coup, quand j'ai décidé de faire le kit de découverte, donc j'ai eu envie, parce que j'avais, grâce à ma femme, connu Guillaume Jeantet. Et j'aimais beaucoup son travail, j'aimais beaucoup son comment il est, la personne. Et je me suis dit, j'aimerais bien, je le verrais bien travailler, je me verrais bien travailler avec lui. Donc du coup, je lui ai proposé et il était intéressé. Par contre, illustration, moi, il était hors de question, parce qu'au début, il me dit, ouais, je te fais ça comme ça. Toi, il était sympa, il voulait même pas me
Oui,
faire payer. Et je lui ai dit, mais ça, c'est hors de question.
on connaît
Voilà.
Guillaume tous les deux, effectivement. Bah oui.
Et ça, je lui ai dit, mais il est hors de question. Tous les dessins que tu me feras, je te les paierai. C'est hors de question. Donc, pour pouvoir faire ce projet, j'ai pris un travail supplémentaire en indépendant pour pouvoir payer les illustrations de Guillaume.
Ouais.
Et donc c'est comme ça que j'ai fait travailler Guillaume sur le projet. Et après, par la suite, donc Lise, c'est la personne qui fait les portraits des prêt-tirés et des PNJ. Elle, je l'ai connue sur le Discord de la constellation d'Orion. Par hasard,
D'accord.
elle postait ses dessins et je me suis dit, mais putain, mais ces dessins-là, ils vont bien avec le style de Guillaume. Et là, pareil, des formations professionnelles un peu. Je me suis dit, voilà, ça fait deux illustrateurs, double source. Je me suis dit, c'est super intéressant, ça évite d'avoir un seul illustrateur sur le projet. Donc je me suis dit, allez, hop, je vais lui parler, je vais lui demander si elle était intéressée. Elle a même pas été méfiante, elle a été intéressée. Toi, on a bien accroché de direct. Et puis du coup, je l'ai fait travailler sur mes PNJ et tout pour le kit de découverte.
Ok, bon, je fais juste une petite pause, comme ça on verra les illustrations passer, tu sais, au fur et à mesure, je les mettrai en insert. Hein. J'en mettrai 3-4, pas plus, hein, mais
Je vais
ça
boire.
donne
Ouais.
une petite vision. Vas-y, bois un coup, ouais, tranquille. Hey, quand t'as envie de te faire une pause ou quoi, t'hésites pas. Hein.
T'inquiète.
Franchement. Hein. merde, où est-ce que je me suis arrêté déjà? Oui, sur les illustrateurs, donc. Ouais, donc ce travail de recherche et de travail avec des illustrateurs, donc c'est quelque chose qui était déjà dans tes fiches de gestion de projet? Tu avais déjà calibré ça? Ou c'est venu au fur et à mesure des contacts? Ou un peu des deux?
Non, c'était au fur des contacts. Alors, je pensais prendre des illustrations parce qu'un jeu de rôle, c'est le visuel hein, qui
Oui,
accroche.
bah, ça y fait beaucoup, effectivement.
Donc, je me suis dit, il aurait fallu que j'y vienne. Mais c'est vraiment la rencontre avec Guillaume qui m'a dit, tiens, j'ai envie de travailler avec lui. Voilà.
J'allais dire,
Et
qui ne veut pas
puis.
travailler avec Guillaume quand il le rencontre, en fait. En fait,
C'est
c'est
ça.
plutôt ça la question.
C'est
Donc
ça.
on lui rend un petit hommage hein, ce soir, avec plein de cœur pour Guillaume. Tiens, hop, voilà, ça c'est fait. On vous mettra les liens hein, pour aller voir aussi ces jeux. Ça mange pas de pain. Voilà. Et donc, dans ta gestion de projet, comme on dit, donc, on avait d'abord donc, le cœur du système, le setting qui s'est construit petit à petit, ensuite les illustrateurs. Et la suite, ça a été quoi hein, après ?
Bah, les playtests.
Et voilà. On y vient.
Les playtests, ce qui était assez important. Donc, j'étais sur un Discord qui s'appelle, j'ai bouffé le nom, la table des rôlistes. Voilà. Désolé D'accord. pour eux. Pourtant, j'en ai fait des parties chez eux. Donc, en fin de compte,
tu peux le refaire si tu veux.
Ouais. Zut, c'était quoi la question déjà ?
C'était sur les playtests. Où est-ce que tu les as fait en premier ?
Donc, pour les playtests, c'était pendant la période du Covid. Et du coup, on passait énormément de temps sur un Discord qui s'appelle la table des rôlistes. Mmh. Et ce Discord était assez riche en création. Donc, c'était vraiment intéressant. Et il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés de faire des playtests sur diverses tables. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai commencé les playtests sur mon jeu. Et petit à petit, ben, on va dire que j'ai un peu enlever ce qui n'allait pas et ce que j'écoutais énormément le retour des joueurs.
Le premier dégraissage, quoi, on va dire.
C'est ça. Donc le premier, j'ai balayé les trois quarts des règles, hein, pour faire simple.
Mmh. C'est, voilà, j'allais dire le processus créatif, je pense que pour en discuter avec pas mal d'auteurs, autrices, éditeurs, c'est à peu près tout le temps comme ça. Hein.
C'est ça. Et du coup, par contre, ce que j'avais bien fait, c'est que dès le départ, au niveau de mon système de dé, dès le début des règles, je savais que je voulais un système avec doublons. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais pas, on va dire, en tête des jeux qui utilisaient les doubles. Alors, ça existe.
Oui.
Mais je les connaissais pas. Et je me suis dit, ben, je veux un système avec des doubles. Donc, du coup, j'ai fait un peu de statistiques pour voir ce qui pouvait être le mieux. Donc, j'étais parti sur du D6 dès le départ. Et après, j'avais mis du D4. Que j'ai viré.
Oui, merci.
Et du coup, sur le D6, après, à force de tester les mécaniques, il y en a des nouvelles qui sont apparues. Donc, alors, je prends l'exemple de Tenga. Tenga, ce que j'adore, c'est on ne lance pas de dés. Mais par contre, dès que ton personnage fait des efforts, tu lances ton D20. Et voilà. Donc, je voulais ce système d'efforts que j'ai fait différemment avec des jauges. Donc des jauges de fatigue et jauges de stress. Mais du coup, ça a complexifié mes statistiques. Et là, je n'avais pas le niveau pour faire des stats, pour faire sur une difficulté de 3 ou 4 sur un double, en lançant 3, 4, 5 jusqu'à 8 dés, excuse-moi. Si en plus tu fais une relance d'un dé au niveau des statistiques, j'étais pas bon et j'y arrivais pas. À l'époque, je faisais partie d'une association d'e-sport qui s'appelle Restart eSport, que ça faisait des années que j'y étais, et je manageais une équipe de jeux de cartes de Legend of Runeterra. Et dedans, j'avais deux personnes qui étaient en thèse de mathématiques. Donc, du coup, je leur avais parlé de mon projet et tout, ils étaient au courant, quoi, ça les intéressait, et puis du coup, ils ont bossé sur mes stats. Mais c'était compliqué pour eux aussi.
Ah ouais, t'as vraiment pas choisi la facilité, quoi.
Donc, et là, du coup, j'ai un autre de mes joueurs qui fait du code, qui lui, il m'a dit, mais te prends pas la tête, je vais te faire quelques lignes de code, et puis on va sortir les stats avec ça. Donc, du coup, il a fait ses lignes de code, il m'a fait des jets de dés sur une simulation sur 10 millions de jets de dés. Donc, en prenant la difficulté minimum et maximum, le nombre de dés minimum et maximum, et avec la relance d'un dé ou la relance de deux dés par rapport aux mécaniques. Et donc, du coup, ça a sorti des tableaux que tu as dans le livre de statistiques. Donc, pour montrer aux joueurs que, oui, le système, c'est un système compliqué où vous avez plus de chances d'échouer que de réussir, mais c'est fait exprès pour amener d'autres mécaniques. Voilà. Donc ça m'a fortement aidé parce que moi, au niveau de mes mécaniques, j'avais mis un niveau de difficulté, mais le niveau de difficulté était trop bas. Et d'avoir donc ces stats m'ont permis de pouvoir réajuster mes niveaux et même la difficulté par rapport au PNJ, etc. Ça m'a fait gagner énormément de temps. Alors, bien sûr, les playtests physiques, on est obligé de les faire. Ça n'enlève
Oui.
pas les playtests de scénarios, etc. Mais du coup, ça m'a fait gagner beaucoup de temps.
Ouais, parce que tu savais déjà en termes de stats ce que ça pouvait donner au niveau de ce que les joueurs allaient pouvoir essayer de faire, quoi. C'est ça à peu près, hein.
C'est ça. Exactement. Donc après, j'avais simplement à tester mes configurations et puis si le jeu pouvait plaire. Donc c'est-à-dire que j'ai organisé des playtests, mais vraiment d'un point de vue expérience. Donc c'est-à-dire que je prenais des playtests à deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. Dans mes playtests, je prenais du joueur débutant, du joueur confirmé qui aime l'enquête, du joueur de DD5, très
Ouais.
important, le joueur de DD5.
Eh oui.
Et du coup, je prenais plein de cas comme ça pour pouvoir, on va dire, avoir des statistiques sur comment mon jeu est joué et comment il peut plaire ou pas à certains joueurs. Parce qu'il faut accepter aussi que le jeu ne peut pas plaire.
C'est ça, c'est évident. Mais du coup, tu t'étais prévu une grille de notation pour récupérer toutes ces données? Comment t'as fait?
Non, ce que je faisais, c'est que j'organisais beaucoup de parties. Et une fois que les parties étaient finies, je demandais aux gens leur avis. Je partais du principe que les gens, ils ne devaient pas se gêner. Donc, si quelqu'un avait un avis négatif sur le jeu, je prenais et je préférais les avis négatifs que positifs. Parce que pour faire évoluer le jeu, on va dire qu'un avis, un avis négatif. Mais avec une critique constructive, c'est super intéressant et ça fait évoluer ta façon de voir ton jeu et ça te fait évoluer ton jeu, ça va très vite. Quelqu'un qui va te dire ton jeu est génial, ben,
T'es content, mais ça fait pas
t'es
avancer ton
content, mais
équipe.
ça fait
Ah
pas avancer.
oui.
Alors que tu sais que ton jeu, il n'est pas génial parce qu'il est en phase de test. Donc, il n'est pas génial et il faut des critiques. Quelqu'un qui va dire ton jeu, c'est de la merde, ben, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a aucune critique. Il le pense, il a le droit, mais ça ne fait pas avancer. Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs qui me faisaient des retours. Alors des fois, il y a des retours que tu avais du mal à comprendre. Et puis en y réfléchissant 2, 3 jours, tu disais, ah bah oui, c'est pas bête. Et puis du coup, tu changeais certaines choses. Ou alors tu adaptais.
Ça
Et c'est
t'oblige à
comme
la
ça que.
sortie. Ça t'oblige à sortir de ta zone de confort pour repenser un peu la façon dont t'as conceptualisé le début du jeu, quoi, en fait.
C'est ça. Exactement.
Et donc très vite, tu as alterné entre les parties en virtuel et en présentiel. T'as fait les deux assez
Non,
rapidement?
très peu.
Non? Très
Très
peu?
peu. Les présentiels, c'est quand j'ai sorti le kit de découverte. Parce que
D'accord,
du
donc
coup,
ceux
je
qui
l'ai
sont
sorti,
ici.
je l'ai sorti pour Octogone et du coup, je l'ai fait jouer à Octogone.
Donc c'était Octogone 2021, je crois, si je me souviens bien.
Non,
2022.
non, 2022.
2022,
2022.
d'accord. OK.
C'est pour Octogone 2022. Et je sais que le jeu était plus fait entre guillemets. Il est fait pour jouer en présentiel. Parce que comme tu lances beaucoup de dés. Avec,
Oui.
tu relances certains dés. Donc, du coup, sur Internet, c'est un peu plus compliqué. Surtout que j'utilise Roll20. Donc, Roll20, il n'aide pas spécialement pour ça.
Non, c'est sûr.
Mais du coup, tous les
Ça n'empêche pas qu'on
playtests,
rigole bien.
oui, tous les playtests et toutes les parties de découverte m'ont fortement aidé. Mais du coup, la sortie du kit n'était pas, on va dire, une fin en soi au niveau des playtests. Pourquoi? Parce que le kit de découverte m'a fait connaître des gens qui sont intéressés au jeu, dont une personne qui s'appelle Ludji sur l'internet, qui lui a fait, il m'a fait un retour en me disant, ben, ton jeu, je l'ai téléchargé le vendredi et les règles étaient simples. Le dimanche, je le faisais jouer le dimanche soir.
Ça c'est bien.
Et du coup, il m'a dit, si tu veux. J'ai enregistré ma partie, donc si tu veux, tu peux l'écouter. Donc, j'ai fait. Déjà, tu sais, tu touches du bois, tu dis c'est vrai, c'est
Ouais.
super cool comme retour. Et puis, la
Ah
personne, je ne la connaissais pas du tout. Hein. Donc, mais du coup, il avait adoré le jeu, la proposition, et du coup, il voulait m'aider. Et du coup, cette personne-là, ben, en plus de ça, a fait jouer, donc c'était le scénario du kit de découverte, il l'a fait jouer plusieurs fois, et à chaque fois, il m'envoyait les audios. Donc du coup,
Excellent.
ça m'a permis de voir comment les scénarios tournaient avec un autre MJ.
Ouais, sans que ce soit toi, parce que tu es le créateur, quoi. Donc tu vois
Voilà,
comment
c'est
les
ça.
autres peuvent s'en emparer, quoi.
C'est ça. Et du coup, je me suis mis en contact avec lui, j'ai échangé beaucoup de choses, et du coup, il a playtesté aussi d'autres scénarios.
Qu'il a lui-même créé, quoi, du coup.
Non, 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 mes
Ah,
scénarios.
ok.
Les
D'accord.
scénarios que j'avais pour la suite, parce que j'avais mon kit de découverte avec le scénario de découverte des prêts tirés. Mais je me suis dit, quand je vais sortir le bouquin, je ne vais pas mettre le même scénario et les mêmes prêts tirés, je vais en faire un autre. Et j'avais l'idée de faire un recueil de scénarios. Donc, du coup, j'avais quelques scénarios. Et du coup, je lui passais et lui, il les faisait jouer. Et il m'envoyait les audios en retour. Et du coup, faire jouer, comment dire, que ton jeu soit playtesté avec un autre MJ, c'est super intéressant et super
Ouais,
enrichissant et ça te fait vraiment avancer le scénario.
et puis même au niveau des règles, tu as fait des retouches à ce moment-là ou c'était déjà carré pour toi?
C'était carré. La seule chose, c'est que il y a des règles qui, des fois, étaient, on va dire, mal expliquées. Et du coup, ben, j'ai modifié tout ça. C'est plus ce côté-là.
Ouais, sur la partie explication, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, quoi.
C'est ça.
Donc ça, c'est la partie donc vraiment de la création, de l'idée que tu as pu avoir de départ, du système et autres, jusqu'à sa matérialisation donc, du kit de découverte, donc Octogone 2022. Ouais, c'est bon, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Donc maintenant, on peut le dire, hein, puisque de toute façon, l'émission est enregistrée. Tu nous as fait tester le jeu, à nous, à Descend Podcast. Donc il y avait Antoine, Déborah et moi. On a pu faire le scénario. Je pense que ça s'était un petit peu ressenti, hein, qu'on s'était bien marré. Hein. C'est ce qui est quand même l'essentiel dans un jeu, j'allais dire, quand même. Et les mécaniques tournaient. Donc, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces mécaniques, en tout cas celles que tu as conçues à peu près dès l'origine et qui se sont affinées avec le temps,
C'est
pour qu'on ait
ça.
la base du système, quoi.
Bah, la base du système, elle est très simple, c'est-à-dire que les joueurs ont cinq attributs. Ces cinq attributs ont des compétences. Donc il y a un score dans les attributs, des scores dans les compétences. Et quand on doit faire un jet, par exemple, sur athlétisme, donc la compétence athlétisme dépend de l'attribut force. Donc on prend la valeur en force, la valeur en athlétisme, et on les additionne et ça fait un pool de D6 à lancer. Voilà, on lance le pool de D6 et on regarde les doubles et c'est le résultat des doubles qui donne le résultat. Donc c'est-à-dire que si on fait un double 2, le résultat il est de 2. Si on a un double 2 et un double 3, le résultat il est de 5. Donc ça c'est le système de base. Voilà. Et à côté de ça, donc il y a ce que je disais tout à l'heure, un système de relance. Donc sur une action physique, on peut utiliser un point de fatigue pour relancer un dé. Et sur une action psychologique, ça va être un point de stress pour relancer un dé. Et cette relance, on peut en faire deux par action au maximum. Donc voilà, donc ça c'est les règles, vraiment
Le cœur
les
du
règles de
système,
base
ouais.
du jeu. Voilà.
Et après, ça
Après, il
dépend
y a
si les
d'autres.
joueurs sont prêts à accepter justement de s'encaisser de la fatigue ou du stress pour pouvoir réussir une action. Et en plus, on n'est même pas sûr parce que les doubles, faut y aller, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ce système de relance. Et après, il y a des jets coopératifs. Donc c'est-à-dire que les joueurs lancent chacun leur jet de dés et on additionne les doubles pour faire le résultat. Par contre, s'il y a zéro double dans le jet de dés, c'est un échec critique. Donc en jet coopératif, si une personne fait un échec critique,
Ça
eh
fait
ben
rater
c'est
tout le monde.
échec critique pour tout le monde. Voilà.
Eh oui, mais oui. Je m'en souviens bien. Mais c'est vrai que du coup, par contre, les réussites critiques en groupe, c'est encore plus, voilà, c'est encore plus amusant pour tout le monde, quoi.
C'est ça, et puis avec le roleplay, les gens, ils s'y prennent vraiment, quoi.
Il y a ce petit. Enfin, moi, je sais que personnellement, ce qu'on avait apprécié, c'était le côté à la fois rétro, hein, années 50, 60, 70. Donc en plus, tu peux mettre des musiques adaptées. Et ce côté, alors, qui fait penser à du Men in Black, comme on disait au tout début, mais qui n'est pas du Men in Black, hein, voilà. Et où en fait, on passe son temps à expliquer aux gens que non, mais il n'y a pas d'ovni, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, quoi. Hein. Bon, en fait, il y en a, hein. Spoiler alert, c'est un peu le cœur du jeu, quoi. Et c'est vrai que c'était très amusant de jongler entre ce que nos personnages savent et dans les relations avec, alors pas que la population, mais aussi les autorités locales. Ça, c'est assez amusant aussi, cette dualité entre les différentes forces de l'ordre pour arriver à résoudre ces enquêtes, quoi. C'était quelque chose que tu avais voulu en termes d'équilibre aussi, assez rapidement via le setting?
Oui, parce que il y a des règles que vous n'avez pas vues,
Eh
mais
ben non.
le MJ gère des jauges aussi, des jauges de tension, avec du coup l'équipe du shérif ou d'autres groupes de personnes. Et du coup, ça, c'était au cœur du système dès le début, oui. Parce que on va dire que dans le jeu, comme je l'ai conçu, le MJ lance pas de dés. Donc, c'est-à-dire qu'on prend les stats des PNJ pour donner une difficulté au PJ. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même que le MJ puisse aussi, on va dire, avoir une interaction par rapport au scénario et avec ses joueurs. Et du coup, gérer ces jauges de tension qui vont compliquer, entre guillemets, la vie aux joueurs pendant le scénario. Je trouvais ça assez intéressant. Un peu au jeu GTA, c'est un peu, on va dire, un système comme ça, en un peu plus
D'accord.
simple. Mais voilà, c'était l'idée de base, ouais.
Bah ça fait donc un jeu qui est franchement efficace. Hein. Je sais que nous, voilà, je le redis, hein, on a beaucoup, beaucoup rigolé, on avait beaucoup apprécié aussi, vous avez fait nos retours. Maintenant, la question qui suit, qui va nous permettre d'approcher doucement de la fin de cette première émission, c'est cette bascule, le moment où tu te dis, bah voilà, mon jeu, il a l'air de fonctionner, j'ai des retours, qu'ils soient critiques, positifs ou autres, qui m'ont aidé à l'améliorer encore plus. J'ai mon kit de découverte qui est dispo, que ce soit en imprimé ou en PDF. Qu'est-ce qui a été le moment de bascule qui t'a dit, bah, finalement, peut-être que j'ai peut-être passé par un éditeur pour le sortir? Ou, parce que je pense que tu avais dans ta gestion de projet prévu de le sortir à un moment donné, mais de basculer vers je vais le proposer. Comment ça s'est opéré tout ça?
Alors au tout départ, comme je t'ai dit, hein, c'était j'avais prévu donc sur Lulu, ou
Oui.
alors au pire des cas, mais je pense que ça aurait été très compliqué, c'est de faire de l'auto-édition. Mais pas plus loin que ça. Je voyais que quand j'ai lancé le Ichiwo, j'ai vu que, par exemple, le premier soir, j'avais une personne, parce que c'était en Pay What You Want, j'avais une première personne qui m'avait donné 20 euros pour le livre. Je dis, mais c'est impossible, quoi. Et puis, du
Merci.
coup, petit à petit, j'ai vu les téléchargements et tout. J'ai eu la chance que ma femme fasse beaucoup de pubs sur plein de Discord qu'elle avait.
Non,
Donc,
pas du
ça m'a
tout.
ramené encore plus de monde. Et une fois que j'ai vu tout ça, je me suis dit, quitte à faire un livre derrière, pourquoi pas tenter de le faire éditer. Donc du coup, ce que j'avais prévu, c'était d'imprimer une vingtaine de versions physiques du bouquin, du kit de découverte. La quasi-totalité était pour des influenceurs, comme vous. Donc du coup,
Alors, c'est
j'ai distribué à pas mal de gens.
ultra collector, quoi.
J'ai distribué à pas mal de gens, quasiment tout le monde a joué le jeu. Ceux qui n'ont pas joué le jeu, je leur en ai pas voulu parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais personne. Donc, pourquoi accepter de donner son adresse physique à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour recevoir, voilà. Donc ça m'a pas choqué. Et puis une fois que tout ça est fait, donc j'avais prévu 3 exemplaires de plus et je me suis dit, on va tenter d'approcher des éditeurs avec ça. J'avais vu à l'époque les appels à texte de Pattern Recog.
Oui, tout à fait.
Et comme j'aimais bien cette maison d'édition, je m'étais dit, tiens, je vais me bouger le cul pour sortir quelque chose pour leur donner. Seulement, c'était avant la fin de l'année et j'avais que un fichier Word. Je me suis dit, je vais pas envoyer un fichier Word. C'est naze, c'est le truc que tu t'es jamais retenu avec un fichier Word, donc je voyais pas intéressant. Donc je voulais vraiment aller jusqu'au kit, sortir le kit, et je me suis dit, là, tu as vraiment quelque chose à proposer, visuel, et que les gens
Oui.
y voient vraiment à quoi ça.
Pas juste un concept, mais quelque chose vraiment qui soit prêt, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'en avais sorti deux parce que je voulais approcher deux maisons d'édition. Mes critères, c'était simple, hein, c'était des maisons d'édition que j'adore, chez qui j'achète tous les jeux. Et du coup, ben, il n'y en avait pas 150, il n'y en avait que deux.
Ça réduit les choix, c'est bien.
Voilà, c'est ça.
Et... ça permet aussi un raccord avec leur ligne éditoriale, parce que ça aussi, c'est important. On n'en parle pas trop, mais ça, c'est voilà, petit conseil aux créateurs, créatrices de jeux, quand vous proposez un éditeur pro, regardez d'abord sa ligne éditoriale avant de lui envoyer. Ça peut aider.
C'est ça. Et donc, du coup, le format de Majestic 12 rentrait, on va dire, dans les lignes éditoriales de ces deux maisons d'édition. Mmh. Donc, du coup, ben, ça m'allait. Et puis, c'est normal, quand tu aimes bien quelque chose, ben, obligatoirement, tu es très influencé dans ce que tu vas proposer. Mmh. Donc, moi, ce n'était pas un setting avec 15 bouquins. Voilà, c'était un seul bouquin. Et puis, quasiment, voilà, quoi, avec des scénarios un peu. Et c'est tout, quoi, pas plus loin. Donc, du coup, je ne me voyais pas prendre la première maison d'édition qui voudrait de moi. Parce qu'il y a des maisons d'édition, j'ai même plus envie d'acheter leur jeu, donc je vois pas pourquoi je leur aurais proposé mon jeu. Donc, donc voilà. Après, d'autres que j'aime bien, mais elles sont trop grosses. Et comme tu disais, ben, c'est pas le style de jeu qu'ils produisent. Donc du coup, c'était logique pour moi que j'aille vers Pattern Recog. Voilà.
Ok, et donc du coup, t'as pu présenter donc ce jeu. Comment ça s'est
passé ? c'est pas moi parce que ça s'est passé à Cannes, donc Cannes 2023, c'est ça. Donc moi je gardais mes enfants pendant le festival de Cannes parce que ma femme était avec OBA Édition là-bas.
Mmh. Je confirme, on y était, on a vu.
C'est ça. Et du coup c'est elle qui a eu la mission de leur donner le bouquin. Voilà.
D'accord.
Et du coup, quand ils ont eu le bouquin en main, je sais qu'en ayant parlé avec JC, toi, tout à l'heure, on parlait des stats, des tableaux de stats. JC, c'est quelque chose qu'il a accroché. C'est un truc qu'il a fait, qu'il a accroché le jeu très rapidement. Parce qu'en plus, JC, ben, il est prof de maths. Donc, quand tu lui donnes des stats, voilà.
Donc, on rappelle, hein, JC, Jean-Christophe Cubertafond.
Voilà, c'est ça. Donc je sais qu'il m'avait fait ce retour-là, qu'il avait adoré voir qu'on explique les stats du jeu.
Ouais, ce qui est sous-jacent aux règles, ouais.
C'est ça. Et du coup, le fait d'avoir, on va dire, un bouquin fini, entre guillemets, parce que c'est un kit de découverte, mais avec du coup avec des dessins, avec une maquette, même si c'est... en gros, le kit de découverte que tu as là, c'est la première... chose que j'ai maquettée, j'avais jamais maquetté avant. Donc, il y a plein de défauts, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Mais du coup, je m'étais un peu bougé le cul pour faire quelque chose de moi-même. Ne pouvant pas faire les dessins, je me suis débrouillé à faire tout le reste et à prendre du temps pour le faire.
Ouais, puis ça va, se voit parce que ça donne aussi une patte quand même au jeu lui-même. Donc, c'est plus facile encore à proposer. Enfin, ça, c'est un avis personnel, quoi.
C'est ça. Et donc, du coup, ben, j'ai eu la chance qu'ils ont, ils ont accroché le kit de découverte. Et du coup, suite à ça, on s'est revus. À Arles.
Oui, donc, le festival. Alors, j'ai plus le nom du festival. Vous le verrez passer en SR. Ploup, 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 ploup. Vous verrez, c'est très bien. Avec le petit bruitage qui va bien, en plus, ce sera magnifique. Donc, c'est le festival qui a eu lieu au musée de l'Art Lantique. Effectivement.
Ouais, c'est ça.
Donc, pareil, Games derrière.
Ma femme avait un stand là-bas. Moi, je gardais les enfants à la maison, comme d'habitude.
Il en faut un.
Et c'est ça. C'est ça, mais c'est pas gênant. J'aime bien, donc.
Bah oui.
Ça fait des week-ends entre mecs, c'est sympa aussi. Et du coup, Jack, il a dit ce serait cool qu'on puisse se voir à ce moment-là. Donc, j'ai vu Voiron, Arles. Ça va, c'était pas très loin.
Non.
Il y avait. Ça va. 2h30 de route, 3 heures. Ouais, mais c'est toujours plus court que ce que Google Maps annonce. Et donc, du coup, on a pris la voiture avec les enfants et on a fait l'aller-retour dans la journée à Arles.
Ah oui.
Voilà. Donc, du coup, on a passé la journée là-bas. J'ai discuté un peu avec eux. Ils voulaient savoir aussi qu'est-ce que j'attendais d'un éditeur, entre guillemets, quoi. Donc pour voir si mes attentes, ce que je voulais était aussi en adéquation avec ce que eux ils avaient envie et ce qu'ils pouvaient proposer. Donc du coup ça a matché et du coup on a fait une poignée de main pour se dire voilà, c'est bon, on travaillera ensemble et voilà. Et du coup, à l'Octogone 2023, on s'est revus. Et là, on a signé le papier.
Officiellement. Un vrai contrat, comme on dit. Bah oui.
C'est ça.
Un contrat d'édition. Éditeur-auteur. Mais ça fait une sacrée aventure. Donc, en l'espace de quoi, 3-4 ans, on va dire, à peu près, hein, 2019-2023, ouais, entre le moment où tu crées le système, puis ensuite l'univers qui s'enrichit au fur et à mesure, et la rencontre avec l'éditeur, donc qui faisait partie en plus de tes chouchous, donc ça tombe bien. Et ici, je crois savoir, et ça, on interrogera l'éditeur, en plus, le jeu, il a été passé une fois que l'appel à texte avait été clôturé. Tu avais déjà vu avec eux, tu les avais prévenus que tu ferais passer le jeu quand même après, ou comment ça s'est fait? C'est vrai que ça, je suis un petit peu curieux.
Attends, on va reprendre, parce que j'ai pas tout compris, je suis désolé.
Ouais, non, c'est pas grave. Mais à la limite, on va peut-être se la garder pour nous, celle-là. C'est vrai que le fait que ça a été transmis au FIGE, c'était quoi, un mois et demi, deux mois après la clôture, hein, des envois des manuscrits, ça a posé problème pour Pattern, ou ils l'ont accepté sans souci?
Non, ils l'ont accepté sans souci, parce que c'est le kit. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai fait l'erreur que le kit de découverte, il y ait la création de perso, un scénario, des pré-tirés, entre guillemets, il y a tout sauf le lore du jeu, quoi, pour faire simple.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont ce kit-là, limite, ben, ils n'ont pas besoin d'acheter le livre chez Pattern parce qu'ils ont tout pour créer.
Ouais.
Donc, ouais. Dès qu'on a dit avec Pattern, on signe, donc dès qu'on a eu la poignée de main, le lendemain, j'ai tout enlevé du Itch.io.
D'accord. Bon, on va reprendre là, alors, du coup. Ce sera plus simple. Voilà, donc pour bon, on arrive, hein, comme je disais, hein, tout doucement vers la clôture de cette première émission. Donc, à partir du moment où tu as ce premier accord verbal, comment ça se passe pour ce petit kit de découverte? Parce que c'est vrai que dedans, on va en discuter un petit peu, hein, à l'époque où tu nous avais fait jouer, mais dedans, tu as la création de perso, les règles et tout. Donc, comment ça s'est passé justement? Parce que, bon, a priori, je pense qu'il n'est plus dispo, tu vas nous dire tout ça.
C'est ça. Ben, dès qu'on s'est serré la main à Arles, et du coup que je savais que le jeu du moins allait être en participatif, parce que bien sûr un participatif c'est pas encore gagné, je touche du bois, mais voilà, c'est le participatif.
Oui.
Directement après, j'ai enlevé que ce soit sur Lulu, parce qu'il était possible de l'imprimer sur Lulu,
ouais,
et sur Itch.io. Donc du coup je les ai enlevés pour que les gens ben, ne puissent plus, on va dire, récupérer le kit de découverte.
Oui, parce qu'on a le cœur du jeu dedans. Hein.
Voilà, c'est ça. En fin de compte, avec le kit de découverte, on peut faire de la création de personnages, on a le scénario avec des pré-tirés, on fait beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, ben, c'était plus intéressant. Il avait fait son boulot, le kit de découverte. Voilà, il avait fait son boulot. Donc, du coup, ben, voilà.
Et c'est de toi-même que tu as voulu faire ça, ou c'est d'un commun accord? Comment ça s'est passé?
C'est moi qui leur ai dit. Ça me paraissait logique. Ça me paraissait logique. Donc, dès qu'on s'est serré la main, voilà, je leur ai dit, ben, le kit de découverte, je vais l'enlever du téléchargement. Mmh. Et bon, du coup, ben, voilà.
Les connaissants, je sais qu'ils ont apprécié. Je pense que c'est pareil pour toi. À force de connaître ces deux personnes peu fréquentables. Ben ouais, ça fait une sacrée aventure, hein, en fait, hein, jusqu'à arriver à... Et cette partie édition, ça aussi, c'est pareil, c'est de la curiosité, parce que malheureusement, dans le monde du jeu de rôle, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent les méthodes de gestion de projet, qui sont pourtant la base, hein, je dirais. Bon, ceux qui le font, voilà, c'est toujours plus utile. Tu avais prévu cette partie éditoriale, ça s'est goupillé à peu près dans ce que tu avais prévu?
Oui, ben, j'avais prévu 2024, donc du coup, oui, on est...
dedans.
On est pile dedans. Sauf que là, moi, je ne gère plus rien.
Et oui.
Je suis que l'auteur. Donc, c'est vrai que ça change un peu, mais voilà, c'est très bien aussi.
Puis après, il va falloir passer chez les influenceurs pour expliquer que le jeu, il faut pledger, allez-y, ouais. Allez-y, c'est de la bombe. Bah, c'est pas mal aussi, hein. Tu verras.
Non, mais bah, ça permet de voir toutes ces choses-là, c'est super enrichissant. Ouais.
Bah oui. Effectivement. Bah, écoute, je pense qu'on va clôturer ici cette toute première émission. La deuxième, on la fera avec la partie éditeur, justement, Pattern Recog, pour voir comment eux, on va teaser un petit peu ce qui vous attend, comment eux, justement, ont pris ton jeu, se le sont approprié, je mets beaucoup de guillemets à approprier, comment ils se sont mis en position de l'éditer, etc., pour arriver au financement qui ne devrait plus trop tarder. Allô, petit doigt, oui, ça devrait plus trop tarder. En tout cas, cette émission sera diffusée avant le début du financement. Si c'est pas magnifique. Cédric, il me reste à te remercier beaucoup du temps que tu as consacré. Hein. Surtout qu'en ce moment, je pense que, comme tu disais, tu n'es pas loin d'un gros déménagement, donc ça promet d'être assez sportif.
Ouais, mais c'est bien de bosser sous pression. Donc,
ça oblige à sortir les choses assez comme il faut, quoi. On va dire ça comme ça.
C'est ça.
Mais écoute, à nouveau, on te remercie vivement. Puis on se dit à très vite pour les prochaines émissions process.
C'est ça. Et merci à Indécent. Allez, à plus.
À plus, salut. Et voilà. Hop. Terminé.